Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Le Ridon, Rosalie Sucre, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Élise Leu. Nouvelle semaine consacrée aux velléités autonomistes du régionalisme à l'indépendantisme qui est in, qui est out. Avant de nous pencher demain sur l'Écosse et l'Irlande, mercredi sur la Nouvelle-Calédonie, jeudi sur l'Éthiopie, commençons aujourd'hui avec la crise politique qui ébranle l'Espagne. De la Catalogne au Pays Basque, les autonomies espagnoles en question, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
L'État espagnol emprisonne nos représentants et notre gouvernement légitime. Ça montre qu'ils sont acculés. Ils pensent qu'avec cette décision, on va abandonner, mais ça n'arrivera pas.
Plus de 4 décennies après l'approbation de la Constitution espagnole de 1978, on constate l'impossibilité d'une démocratisation complète du pays en raison de la résistance des anciennes structures du régime précédent et de l'absence de volonté des grands partis politiques espagnols. La modernisation de l'État dans de nombreux domaines ne s'est pas traduite par des actes fondamentaux pour un fonctionnement démocratique homogène.
Je suis ravi d'avoir autant de gens ici représentant les différents peuples du Pays Basque, de Valence, de Mallorca, de Minorque, de Galice. Ensemble, ils nous donnent la force de la solidarité entre les peuples qu'ils représentent, de la fraternité dans ces moments, de la justice, car nous savons que nous luttons pour une cause juste.
Quim Torra, le chef de la Generalitat, qui a succédé à Carles Puigdemont et qui salue le manifeste commun soutenu par plusieurs partis nationalistes du pays. En effet, le 25 octobre dernier, plusieurs partis indépendantistes espagnols se sont réunis à Barcelone pour apporter leur soutien aux élus catalans condamnés par la justice espagnole à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour sédition suite à l'organisation du référendum de 2017 jugé illégal par Madrid. Dans une déclaration commune, la Declaración de la Llotja de Mar, ils revendiquent une relecture de la Constitution de 78 dénonçant la structure antidémocratique de l'État héritée du franquisme. Ainsi, la crise catalane se fait le révélateur de dissensions profondes qui questionnent aussi le fonctionnement des régions et leur rapport avec l'État central. Mais comment l'Espagne organise-t-elle l'administration de ses territoires? Comment ce cadre administratif varie-t-il d'une région à l'autre? Et jusqu'où la crise catalane ébranle-t-elle le système politique tel qu'il existe depuis le retour de la démocratie? Ces questions sont d'autant plus importantes que le contexte politique est particulièrement instable avec une quatrième élection législative qui vient de se dérouler et que malgré le fait que le PSOE, le Parti Socialiste, se soit entendu avec Podemos, formation d'extrême-gauche, pour forger une coalition gouvernementale, le retour de la stabilité politique n'est pas acquis. D'ailleurs, ces deux formations sont-elles seulement d'accord sur les modalités de règlement de la crise catalane? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ici à Paris Cyril Trépied. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, spécialiste de la politique espagnole, de l'indépendantisme catalan et vous êtes également chercheur à l'Institut français de géopolitique de Paris 8. Avec nous, en duplex de Perpignan, Nicolas Marty. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Perpignan. Et tiens, je vais commencer avec vous, Nicolas Marty. On va rappeler peut-être aux auditeurs les résultats des élections du 10 novembre dernier. Le Parti Socialiste Espagnol est sorti victorieux, 28% des voix. Puis vient ensuite le Parti Populaire, 20%. Et puis Vox, le parti d'extrême droite. Vient ensuite Podemos et enfin les centristes de Ciudadanos. La semaine dernière, Nicolas Marty, le Parti Socialiste Espagnol et Podemos ont annoncé avoir conclu un accord de principe pour former un gouvernement, ce qui n'était pas gagné d'avance puisque Sanchez avait échoué pendant un an et demi. Est-ce qu'on peut espérer, Nicolas Marty, que l'Espagne retrouve un peu de stabilité politique ou ce sera un répit de courte durée pour vous?
Eh bien, c'est une vraie question. Le répit, disons que c'est une nouvelle qui est importante dans la mesure où la dernière législature n'a pas pu avoir lieu compte tenu de l'absence d'entente entre les forces dites progressistes espagnoles et notamment une absence d'entente sur la question catalane qui a été un point fort de la mésentente entre Podemos et le PSOE puisque Podemos est quand même globalement pour le droit à l'autodétermination et à plusieurs reprises défendu le principe du droit des autonomies à décider de leur avenir. Et par ailleurs, Podemos a quand même un ADN républicain. Et le PSOE, et lui, est très fortement attaché à en rester à la Constitution, à la lettre de la Constitution de 1978, même si c'est assez compliqué. Donc de ce fait-là, pour le moment, l'entente entre Podemos et PSOE est très importante.
Même si Nicolas Martí, si on compare le Parti Socialiste Espagnol et le Parti Populaire, quand même le PSOE est traditionnellement un peu plus ouvert que le Parti Populaire sur cette question-là. Tiens, je vais faire réagir Cyril Trépied justement pour savoir, essayer de comprendre peut-être si on s'est mis d'accord et sur quoi concernant la question catalane entre le Parti Socialiste et Podemos, Cyril Trépied.
Alors, c'est un accord de principe, c'est effectivement nouveau, Nicolas Martí a raison, et puis c'est nouveau historiquement parce qu'il n'y a jamais eu de gouvernement de coalition à l'échelle de l'Espagne depuis 1978.
Donc, il faut dire que c'était le bipartisme pendant très longtemps et que c'est seulement depuis quelques années que le paysage politique se fragmente.
Absolument, et Podemos est l'un des partis qui a été fondé pour briser ce bipartisme, ce qui est pour le moins réussi. Effectivement, le PSOE et le Parti Populaire ont une image différente sur la question catalane. Mais ça ne veut pas dire que lorsque Mariano Rajoy était au pouvoir, par exemple, sur la question catalane, le PSOE aurait fait exactement l'inverse de ce qu'il a fait à ce moment-là. Ouvert au dialogue, oui, sur le principe, mais tout n'est pas une question de principe. Et puis surtout, le PSOE a peut-être une position plus plus fixe, plus durable sur la question catalane, alors que Podemos a eu un discours ces dernières années assez fluctuant.
Par ailleurs, Nicolas Martí, ce discours, il a un tout petit peu bougé durant la campagne. Le discours du Parti Socialiste, Pedro Sanchez, a proposé d'introduire un nouveau délit dans le code pénal pour interdire la tenue de référendums illégaux. Il a également promis d'obtenir l'extradition de Carles Puigdemont, l'ancien leader catalan toujours en Belgique. On a quand même assisté à une forme de durcissement de Sanchez sur cette question catalane, Nicolas Martí.
Absolument. Disons que, enfin, il est intéressant de retenir ce point d'une campagne électorale. Je crois que c'est très important. L'Espagne est en campagne électorale quasiment permanente depuis assez longtemps. Et la crise catalane est un élément qui apporte des voix au parti espagnol. C'est-à-dire que Mariano Rajoy a fait sa campagne de 2010 sur l'anti-catalanisme à proprement parler, mais la lutte contre le statut. Et on s'est rendu compte à la fois au PSOE et au PP que le discours contre les velléités d'autodétermination catalane était payante au plan électoral dans les autres communautés autonomes, à part au Pays Basque, bien entendu. Et donc, là, il était très difficile dans ce pari qu'a fait Sanchez de relancer des élections, d'avoir un discours qui serait un discours qui serait jugé comme laxiste par la majorité des Espagnols. Et donc, je pense que ce discours est un discours électoral qui s'explique de manière claire. Mais il est possible, et d'ailleurs quelques voix sont apparues récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, Zapatero a dit qu'il serait important de relancer un dialogue en partant sur des bases tout à fait nouvelles. Et je pense que à partir du moment où on aura une stabilité, et vous aviez tout à fait raison de le souligner quand j'ai terminé mon tour de parole, le PSOE aura probablement des propositions très différentes de celles du PP sur la question des autonomies.
En fait. On va y revenir. Cyril Trépied, je regarde encore ce que nous ont dit les élections et je regarde le nombre de sièges des uns et des autres. 120 députés socialistes, 35 députés Podemos, qui nous fait 155, or la majorité est à 175. Alors, on va regarder du côté catalan maintenant. On a la gauche républicaine de Catalogne, l'ERC, qui a 13 sièges. On a 8 sièges pour Junts per Catalunya, qui est la droite nationaliste catalane. Et puis on a la CUP, la candidature d'unité populaire, qui est un peu plus à gauche encore que le RC, qui elle a 2 députés. Ça c'est pour la Catalogne. Ensuite je regarde un peu du côté des Basques. On a 6 sièges pour les partis nationalistes basques. Et on a 5 pour Euskal Herria Bildu, pardonnez-moi pour la prononciation. Mais donc ce que je vois tout de suite, c'est que si j'additionne les socialistes, Podemos, et même seulement d'ailleurs les Catalans, ça suffit pour avoir une majorité. Est-ce que Pedro Sanchez va pouvoir compter sur les Catalans?
Sur les indépendantistes catalans, l'adjectif a
sur les indépendantistes catalans, vous avez raison.
Pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'acquis. Et si on pense à ERC et à John Percat, ils n'ont pas tout à fait la même position. Mais par contre, ils ont fondamentalement, face à eux, les mêmes électeurs et la même demande de fermeté absolue de la part des indépendantistes fervents.
Mais on a discuté entre Sanchez justement et les indépendantistes catalans. Est-ce qu'il va pouvoir compter sur eux ?
Oui, il y a eu Pedro Sanchez, comme c'est toujours le cas, a reçu l'ensemble des représentants des partis politiques, dont Monsieur Rufián, qui représente le groupe ERC au Congrès des députés.
Le ERC va soutenir Sanchez et Podemos.
À l'issue de la rencontre, c'était non.
Ah oui, d'accord, c'est donc.
Voilà. C'est donc. Mais la position peut comme toujours évoluer de manière plus discrète. Et en tout cas,
c'est très important. Évoluer de façon plus discrète, ça veut dire que il faudrait obtenir quelque chose. Enfin, je veux dire qu'il y a un deal là. Il y a quelque chose à vendre, j'allais dire, pour les indépendantistes catalans, à obtenir en tout cas.
Oui, mais on n'est plus à l'époque où le soutien des nationalistes catalans et basques pour le candidat qui se présentait, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, était à peu près acquis contre de nouveaux transferts de compétences depuis plusieurs années. Ça n'est plus ça.
Nicolas Marty, Cyril Trépied disait... pas les mêmes positions du côté des indépendantistes catalans. C'est peut-être ça aussi la grosse difficulté pour le camp indépendantiste. Quim Torra, qui est le chef de la Generalitat, qui a succédé à Carles Puigdemont, il a proposé la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance dès l'an prochain. Sauf que visiblement, ses partenaires de coalition à la région ne sont absolument pas favorables à cette idée. Joan Tarda, le figure de la gauche indépendantiste, de cette gauche républicaine indépendantiste, le RC, n'a pas du tout l'air sur la même ligne. On a des divergences très importantes quant à la stratégie à adopter pour poursuivre cette quête d'indépendance. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est peut-être ça le problème aussi, Nicolas Marty, aujourd'hui.
Alors, c'est tout à fait ça. Simplement, le droit à l'autodétermination a été rappelé à nouveau la semaine dernière par le Parlement de Catalogne. Mmh. Et dans une discussion qui a eu lieu, bien qu'elle est, disons, juste avant l'interdiction par le tribunal constitutionnel espagnol d'évoquer cette question... le droit à l'autodétermination doit-il s'exprimer immédiatement ou pas ? Tout le monde est d'accord sur le fait que le droit d'autodétermination doit s'exprimer chez les indépendantistes, bien entendu. Mais à quel moment ? C'est-à-dire que là, par rapport à l'investiture de Sanchez, et globalement, la question est pour l'instant, la réponse est unitaire, elle est non. Mais on sent bien que à l'intérieur des groupes, que ce soit même à l'intérieur même de l'Esquerra Republicana ou à l'intérieur de Junts per Catalunya, c'est moins net pour Junts per Catalunya, certains seraient pour une investiture dans la mesure où on peut relancer un dialogue, tandis que d'autres considèrent que il faut aller plus loin à nouveau dans la crise constitutionnelle espagnole pour que du chaos émerge des solutions nouvelles. Vous voyez, c'est un peu la vision des deux points de vue. Et ces deux points de vue sont présents à la fois chez Esquerra Republicana et chez Junts per Catalunya.
Et évidemment, on va faire ce travail pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette constitution et regarder comment est-ce qu'on a prévu l'administration des différents territoires. Mais avant, on poursuit un tout petit peu pour décrypter cette actualité, Cyril Trépied, et toujours par le truchement de cette question catalane. L'une des leçons, il y en a plusieurs, mais l'une des leçons de ce dernier scrutin, c'est la montée en puissance, toujours et encore, du parti d'extrême droite, Vox. Son candidat, Santiago Abascal, a obtenu 10% des voix, alors que c'est un parti qui a été fondé il y a 6 ans, et qu'avant cela, l'extrême droite n'existait pas dans le paysage, enfin, post-franquiste, n'existait pas dans le paysage politique espagnol. Jusqu'où est-ce qu'on peut corréler l'émergence, la montée en puissance de Vox à la question catalane, la crise catalane ?
Alors, la crise catalane est l'un des principaux carburants de Vox, clairement. Mais il n'y a pas que ça. Alors bien sûr, lors de cette campagne qui a été centrée sur la question catalane, sans forcément refléter une préoccupation immédiate et surtout exclusive des citoyens espagnols dans leur diversité. Si on observe Vox sur quelques années, il faut se rappeler que ces dirigeants ont, pour beaucoup, dont Santiago Abascal, étaient confrontés directement à non seulement l'indépendantisme basque, mais à ETA directement, L'un des dirigeants de Vox a subi la plus grave, la plus longue détention comme otage de Théa, 512 jours. Barbara Loyer reviendra. Santiago Abascal lui-même a fait ses études sous protection policière pour la même raison. Et ça donne à Vox une forte légitimité pour défendre l'unité de l'Espagne contre l'ensemble des indépendantismes, pour des électeurs espagnols qui savent qu'il n'y a pas que en Catalogne qu'il y a un mouvement indépendantiste important. Oui, bien sûr, oui. Et ça, c'est quelque chose que les autres partis n'ont pas nécessairement.
Nicolas Marty, peut-être sur cette montée en puissance de Vox également, je voudrais vous entendre. Et puis pour aller un tout petit peu plus loin, essayer de nous faire comprendre comment Vox compte régler la question catalane. Je mets des guillemets, mais finalement, c'est pour eux, on règle comment le problème, Nicolas Marty, pour Vox?
Alors, je pense que je suis d'accord avec ce qu'a dit Cyril Trépied sur le fait que le carburant de Vox est la crise catalane. Et pour ma part, je préciserai un point. Le premier point, c'est que je ne crois pas qu'il y ait eu, c'est ce qu'on a souvent entendu, hein, une exception espagnole sur le fait qu'il n'y avait pas d'extrême droite. En fait, une partie très claire du Partido Popular était déjà très, très, très radicale. Et ne voyait aucun problème à reprendre une partie de l'héritage du franquisme de la fin des années 70.
Il n'empêche qu'il n'était pas institué comme tel.
Certes, oui. Mais c'est comme, je ne sais pas si vous prenez par exemple le Parti Républicain aux États-Unis, il y a une partie qui est extrêmement conservatrice, enfin, bon, ce serait difficile de dire qu'il n'y a pas de droite extrême aux États-Unis. Oui. Et donc, sur cet aspect-là, c'est vrai que par exemple, Abascal était quelqu'un qui vient du Partido Popular et qui faisait partie de ce groupe-là. Mais c'est vrai que désormais, ils affichent un point de vue en prenant les aspects les plus radicaux et en les maintenant ouvertement, disons, dans un ensemble conceptuel unique, ce qui différencie évidemment du Partido Popular. Et je pense que...
Leur recette pour régler la question catalane, Nicolas Martí.
La recette, je crois que la recette, elle est globalement partagée par beaucoup de gens qui considèrent que les nationalismes périphériques sont des problèmes, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que ces questions doivent être définitivement réglées par un contrôle extrêmement accru des autonomies, voire la fin du système des autonomies, pour revenir à une Espagne véritablement unie. Et là, ça rejoint quand même une partie importante de la classe politique espagnole qui considère que les nationalismes périphériques sont des anomalies et qui sont appelés à disparaître pour que l'Espagne devienne un pays véritablement moderne. Et Vox porte cette voix de manière radicale en pensant qu'il est temps d'en finir avec ces autonomies pour arriver à un pays qu'il voit comme un pays moderne, unifié. Et c'est bien entendu une vision qui tranche radicalement avec la vision des autonomies, notamment du Pays Basque et de la Catalogne.
Sauf que mettre fin évidemment à l'autonomie, il y a un problème constitutionnel qu'on va voir dans un très court instant. Mais Cyril Trépied, je veux peut-être vous entendre sur ce qu'évoquait Nicolas Marty à propos du fait que peut-être existait-il déjà finalement dans cette droite populaire espagnole quelque chose qui est très en lien avec cette extrême droite nationaliste aujourd'hui qui s'est incarnée dans Vox. Parce que c'est vrai que d'aucuns considèrent qu'en réalité, derrière Vox, il y a aussi peut-être le retour d'une forme de nostalgie pour le franquisme, etc. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous parle, au-delà de la question catalane, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti?
Alors, l'extrême droite existe en Espagne depuis longtemps, mais son absence en tant que telle au Congrès des députés de Madrid depuis plusieurs décennies a tendance à la dissimuler depuis l'étranger. Mais il y a deux partis se réclamant de la phalange qui ont des scores ridicules, même si on les additionne, et qui donc sont loin des assemblées, quelles qu'elles soient. Il y a des chaînes de télévision et avant de radio qui sont clairement d'extrême droite, enfin ultra-conservatrices. Il y a une extrême droite qui habituellement se réclame du franquisme et se fait remarquer par des manifestations violentes dans les rues, que ce soit en Catalogne, où elle n'a jamais cessé d'exister, ou dans le reste de l'Espagne. Donc oui, elle existe, et effectivement, il y a une frange du Parti populaire qui est assez proche de cette mouvance.
Cyril Trépied, venons-en au cadre constitutionnel et à la manière dont la Constitution, la loi fondamentale, gère l'administration des territoires. Je vais commencer avec vous et puis ensuite on verra avec Nicolas Marty sur la dimension purement historique de la chose. Parce qu'il faut rappeler que l'Espagne, c'est pas un État fédéral, c'est un État régional, un État des autonomies. Il y a cet article 2 de la Constitution espagnole de 78 qui prévoit justement cette administration des territoires espagnols. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Cyril Trépied, ce qu'il y a derrière cette Constitution, ce qu'elle prévoit? Comment est-ce qu'on peut, d'une région à l'autre, d'une communauté à l'autre, finalement avoir un type d'administration un peu à géométrie variable? Comment ça s'organise?
Alors, ce qu'a fait principalement la Constitution de 1978, ça n'est pas de fixer dans le détail les autonomies, mais d'en ouvrir la possibilité. Et la Constitution de 1978 n'a en tant que telle créé aucune autonomie, mais a prévu différents régimes, différentes vitesses d'accès à l'autonomie, en commençant par les trois nationalités historiques, la Catalogne, le Pays Basque et la Galice, parce que ces trois régions avaient obtenu un statut d'autonomie sous la Seconde République espagnole, même si seul le statut d'autonomie catalan de 1932 a été appliqué. Maintenant, très vite, malgré ce que prévoyait la Constitution, qui est encore une fois très ouverte là-dessus, il y a eu une...
Très ouverte, ça veut dire quoi concrètement?
Très ouverte.
Quel type de liberté ça peut vous donner?
Eh bien, alors, ce régime des autonomies a évolué, mais ça prévoyait que il y ait un parlement par communauté autonome, et donc un exécutif régional, et avec certains financements, mais encore une fois, cet état des autonomies s'est construit au fil du temps. Et il y a eu une généralisation des autonomies qui est partie de l'Andalousie, au début des années 80, à l'issue d'un référendum sur l'accès à l'autonomie, et les électeurs andalous, dans leur majorité, ont... préférer la voie rapide et non pas la voie lente.
Alors, on va revenir justement sur ce processus, parce que c'est un processus long, mais si on revient, Nicolas Marty, au début, c'est-à-dire à la Constitution de 78, à l'origine, Cyril Trépied nous le disait, l'autonomie, elle devait être accordée aux seules nationalités historiques, c'était ça la formule, c'est-à-dire la Catalogne, le Pays Basque et la Galice. Et puis finalement, on a élargi cette possibilité à d'autres entités. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé historiquement pour que ça se passe ainsi? C'était pas prévu comme ça au départ.
Alors, il y avait quand même une possibilité qui était laissée. Ce n'était pas nécessairement uniquement pour les nationalismes basques, catalans et galiciens que étaient prévues les autonomies, mais c'est vrai qu'il y avait une distinction quand même entre les autonomies historiques d'un côté et les autres régions espagnoles de l'autre. Je crois que l'élément majeur, c'était une volonté d'égalité territoriale, et que beaucoup de territoires considéraient qu'il était anormal que certains territoires aient des autonomies tandis que d'autres n'en aient pas. Et de ce fait, effectivement, le système s'est construit petit à petit à partir de deux lois. Une loi d'organisation, les lois organiques d'harmonisation du processus d'autonomie, et une loi organique de financement des communautés autonomes qui n'était pas qui n'était pas du tout structurée dans le cadre de la Constitution. Et ce qui fait que c'est un processus, en fait. La Constitution de 1978 lance un processus. Et c'est, en fait, je crois qu'on est là au cœur de la question, c'est-à-dire que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une trajectoire qui est une trajectoire, une sorte d'entre-deux, en fait. On ne sait pas vraiment si l'Espagne est un ensemble unis et qui doit considérer que la Constitution de 1978 est un point d'arrivée absolu dans le qui est indépassable, ou si la Constitution de 1978 était un point de départ vers une Espagne véritablement plurinationale, plurilingue et diverse. Et là, on se retrouve dans cet entre-deux. Et on a l'impression que l'Espagne n'a pas réellement décidé. Le manifeste de la loge de mer que vous avez cité, qui est très récent, qui est d'octobre 2019, il fait écho pour moi au manifeste de 1998, après 20 ans de communauté autonome et de régime des autonomies. Le Parti nationaliste basque, le bloc indépendantiste, le bloc nationaliste gallego et Convergence et Union, qui était le parti de centre droit au pouvoir avec Jordi Pujol, ont fait un manifeste en 1998 pour dire l'Espagne est maintenant suffisamment forte pour aller vers une véritable Espagne plurinationale et plurilingue qui s'assume comme telle. Et c'est ce qui a été le moteur, en fait, de la construction du deuxième statut catalan de 2006. Et nous sommes aujourd'hui, en fait, dans le même positionnement, dans la même question. Où se situe véritablement l'Espagne? Vous l'avez dit de manière très, très claire. On n'est pas dans un pays fédéral. On est dans un pays qui gère des autonomies. Ces autonomies ont été très critiquées par les régimes, les systèmes nationalistes basques et catalans, dans la mesure où c'est le principe du café para todos, c'est-à-dire, pour les Catalans, un nivellement par le bas des autonomies, avec disons que la Catalogne est immergée dans un ensemble d'autonomies qui ont une faible historicité, une faible identité au regard du reste de l'Espagne, et elle se considère donc comme en quelque sorte flouée par cette situation.
Finalement, Franco décède en 1975 et 2 ans plus tard, on peut fêter la Diada, la grande fête annuelle catalane.
Depuis près de 40 ans, les Catalans n'avaient pu célébrer à Barcelone, ouvertement et librement, leur fête nationale, la Diada. Hier, ils se sont rattrapés. Par centaines et centaines de milliers, ils ont envahi les rues de Barcelone, décorés du drapeau jaune à bandes rouges de la Catalogne, et ils ont chanté jusqu'à l'épuisement leur hymne national, le Segadors.
Voilà, c'était une archive de 1977, 11 septembre 1977. Cyril Trépied, pourquoi finalement, aujourd'hui, un peu plus de 42 ans après, on a ce problème catalan? C'est-à-dire que on règle la question d'une certaine manière, en tout cas au départ, le pense-t-on, avec cette constitution qui ouvre ce champ vert, ce champ des possibles pour des autonomies pour les uns et les autres, pour les régions, pour les communautés, etc. Et puis finalement, dans un premier temps, ça va régler la question. C'est-à-dire que il va plus y avoir de manifestations pour demander davantage d'autonomie. Enfin, de temps en temps, mais c'était assez sporadique. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? À quel moment est-ce qu'on va avoir un point de rupture qui nous fait aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui?
Alors, dans cette archive qui est importante, du 11 septembre 1977, on est dans une époque radicalement différente de l'actuelle, où, d'une part, il y avait quand même des risques pour les très nombreux participants à cette manifestation, parce que certes, le régime n'existait plus, mais certains de ses partisans étaient toujours franchement actif en Catalogne. Et surtout, il n'y avait pas du tout un mouvement explicite pour l'indépendance, en tout cas pas de façon visible, parce qu'il y avait beaucoup de choses à obtenir avant. Et puis parce que certains étaient contre. Alors, régler la question, ça n'est pas facile, dans la mesure où les demandes des indépendantistes catalans, qui ne l'ont pas toujours été, de manière explicite, là encore, ont évolué. En fait, le mouvement indépendantiste catalan, il naît en tant que tel au début du XXe siècle. Il connaît une évolution irrégulière, mais l'idée que la Catalogne s'en tirerait mieux, notamment sur le plan économique, en se séparant de l'Espagne, elle n'est pas nouvelle. Mais ce mouvement est resté très discret dans différents partis, pas seulement des partis explicitement nationalistes, pendant plusieurs décennies. Mais le mouvement ne s'est pas réveillé subitement en 2012. Pourquoi on en est encore là? Je pense entre autres parce que...
C'est quand même un moment, vous citez 2012, c'est quand même un moment où précisément il prend de l'ampleur justement sur ce mouvement indépendantiste catalan. Il y a eu cette décision 2 ans plus tôt du tribunal constitutionnel relatif à un nouveau statut, des nouvelles possibilités qui avaient été accordées quelques années plus tôt, en 2006. Et c'est vrai que cette décision du tribunal constitutionnel, d'ailleurs il va falloir nous éclairer sur ce point, Cyril Trépied, puis ensuite je passerai la parole à Nicolas Marty, va quand même revivifier cet indépendantisme catalan.
Ça a joué, mais ça ne l'a pas créé.
Vous nous rappelez ce qui est décidé en 2006 et pourquoi le tribunal en 2010 revient sur ces nouveaux statuts?
Alors, le statut de 1979 a fait l'objet d'une réforme dont la préparation a été très longue, très clivante aussi. Et ce statut a été porté devant le tribunal constitutionnel par le Parti populaire, c'est vrai, par d'autres instances, y compris d'ailleurs d'autres communautés autonomes qui, pour certaines, étaient gouvernées par la gauche, par le PSOE. Pour cette même idée que Nicolas Marty a exprimée tout à l'heure, de considérer comme anormal que certains aient beaucoup plus d'autonomie que d'autres.
Et le tribunal constitutionnel tranche ?
Le tribunal constitutionnel tranche, mais ne tranche pas immédiatement. Il tranche 4 ans plus tard, ce qui contribue à crisper les choses. Mais alors, il n'annule pas le nouveau statut d'autonomie, mais il invalide plusieurs dispositions.
Lesquelles ?
Alors, sur le plan financier, sur le plan judiciaire aussi, c'est important. Et c'est la question qui a beaucoup cristallisé, qui a été très commentée sur le fait de considérer explicitement la Catalogne comme une nation et non pas comme une nationalité. Ça n'est qu'un des aspects.
Nicolas Marty, vous qui êtes professeur d'histoire contemporaine, est-ce que quand nous parlerons de la question catalane dans 20 ou 30 ans, on dira que cette décision du tribunal de 2010 était une décision historique ?
Je le crois, oui. Je le crois parce
Pourquoi ?
Parce que c'est, vous voulez, au point de vue du mouvement catalaniste, je vais expliquer ce que ça signifie. Pour une partie très nombreuse de la société catalane, ça représente une rupture du pacte constitutionnel, en fait. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, on considère que il va être très difficile d'arriver à la manière dont on considère qu'on doit jouer un rôle au sein de l'Espagne et que, de ce fait-là, il vaut mieux en sortir pour développer l'histoire de la Catalogne. J'explique très rapidement ce que signifie le catalanisme, en fait, parce que c'est de là que vient la base de l'indépendantisme. Le catalanisme, c'est considérer qu'il existe un fait différentiel catalan et qu'il faut reconnaître la Catalogne comme une personnalité politique, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de l'Espagne. Et tous les partis qui sont actifs en Catalogne et qui ne sont pas des partis nationaux ont cette base catalaniste. Et c'est de ce point de vue-là qu'on parle de nationalisme. Parce que là, depuis tout à l'heure, on discute effectivement de nationalisme, mais je crois que le nationalisme, il faut bien ne pas être confus sur la question. On considère que les partis catalans sont nationalistes dans la mesure où ils considèrent qu'il existe une nation catalane et que c'est dans ce périmètre-là que doit s'exprimer la vie politique catalane. Ensuite, il y a différentes...
Ça c'est pas constitutionnel du point de vue de la Constitution de 78, puisque dans la Constitution de 78, il n'y a qu'une seule nation, c'est la nation espagnole. Il y a des nationalités, mais qu'une nation, je ne me trompe pas.
Oui, certes, mais
je rappelle pour les auditeurs.
Toute la question, effectivement, est celle de comment on considère cet aspect de nationalité. Ouais. Beaucoup d'Espagnols considèrent que ce sont des nationalités de type culturel. Et quand même, je pense que aussi bien le parti nationaliste basque que les partis catalans considèrent que la cellule de base de la vie politique doit être la Catalogne. Et là, tous les partis, même le Parti des Socialistes Catalans, qui est dans la coalition avec, qui fait partie, qui est associé au PSOE, à cette idée de catalaniste. Ensuite, les catalanistes, pendant très longtemps, et c'est ce que disait Cyril, on considérait que ce système catalaniste pouvait exister dans une Espagne plurielle. Et qu'on peut tolérer, voire même accepter, voire même considérer que la Catalogne pouvait être une sorte de pionnier démocratique du reste de l'Espagne. Mais ce qui se produit depuis 2010, et puisque la décision a quand même été extraordinairement discutée, elle a suscité une indignation générale en Catalogne, dans la mesure où la composition du tribunal constitutionnel était très discutable, très discutable et très discutée, parce qu'on considère que ce tribunal est un tribunal qui est composé de magistrats, mais qui est très politique en fait.
Parce qu'ils sont désignés par le pouvoir.
Ils sont désignés par le pouvoir. Mmh. Et pour plusieurs, et vous savez, beaucoup de constitutionnalistes italiens ont discuté, parce que le tribunal constitutionnel italien est assez proche du tribunal constitutionnel espagnol, ils ont discuté cette décision et ils l'ont vraiment vivement critiqué dans la mesure où le système fonctionnait quand même depuis 4 ans.
Ceci dit, dans à peu près tous les pays, dans tous les régimes, ça se passe comme ça, effectivement. Hein, les cours constitutionnels, les tribunaux constitutionnels, il y a des membres qui sont désignés par le pouvoir. Alors, vous ne pouvez pas tous les changer au même moment, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe.
Mais là, disons que la composition même du tribunal était très discutable dans la mesure où il y avait 10 membres sur 12 qui étaient présents. Mmh. Un avait été décédé, l'autre avait été récusé. Certains membres avaient des mandats qui avaient expiré. Et donc, manière dont le statut a été traité, à mon avis, est le point. Effectivement, le catalanisme existe depuis très longtemps, l'indépendantisme également. Mais la décision du tribunal constitutionnel, et surtout derrière... Tout l'enchaînement des faits depuis 2010 jusqu'à 2017 a été, à mon sens, le principal moteur de l'indépendantisme. Parce que c'est ce que je reprendrai très, très volontairement le travail de Stéphane Michonneau, qui évoque un indépendantisme par défaut de pouvoir exprimer définitivement, être certain que l'Espagne accepte d'être plurinationale et plurilingue, ce qu'elle n'est pas réellement et pas totalement aujourd'hui.
En tout cas, pas au sens de la Constitution de 78. Cyril Trépied, Nicolas Marty, encore une question et puis ensuite on va accueillir Barbara Loyer. Donc je vous demanderai s'il vous plaît l'un et l'autre une réponse relativement courte pour qu'on puisse accueillir Barbara Loyer et ouvrir à la question basque. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à propos de la proposition de Pedro Sanchez d'interdire finalement la possibilité d'un référendum. Tout à l'heure, Nicolas Marty disait on était pendant la campagne et d'une certaine manière, c'était une proposition électoraliste. Mais est-ce que finalement, ça pourrait pas être la solution? C'est-à-dire mettre en place, effectivement, interdire, parce que c'est ce qui pose problème, interdire ce référendum d'autodétermination et repenser un nouveau cadre par lequel on remet en route cette autonomisation des territoires espagnols.
Pas forcément, parce qu'en fait, l'interdiction, elle est déjà comprise dans la Constitution, qui réserve...
Il y a beaucoup de débats là-dessus, justement. En gros, ceux qui sont pour le référendum vous disent que constitutionnellement, ça pose pas de problème. Ceux qui sont contre vous disent que ça pose problème. Enfin, honnêtement, il y a débat là, en Espagne, là-dessus.
Il y a débat.
On peut trancher le débat en disant que, en le disant dans la Constitution, c'est interdit. Point terminé, il n'y a plus débat.
C'est interdit. C'est-à-dire que la Constitution prévoit que, effectivement, le gouvernement central puisse donner à une communauté autonome la compétence d'un tel référendum, mais pour l'instant, ça n'a jamais eu lieu, ni pour la Catalogne, ni pour un autre territoire. Mmh. Et ma réponse serait celle-ci. Il y a toujours une réaction d'une ou deux autres autonomies dès qu'une compétence nouvelle est accordée à la Catalogne ou au Pays Basque.
Nicolas Marty.
Oui, disons que ce qui était surprenant, la question de la pénalisation du référendum, la réponse qui a déjà été donnée, c'est-à-dire que le mouvement tel qu'il a été construit depuis 2010, c'est un mouvement qui s'est fait de manière quand même démocratique, avec des élections. Le Parlement de Catalogne a une majorité indépendantiste depuis 9 ans et il a été élu sur des bases en 2015 dites plébiscitaires pour mener un référendum et les gens sont en prison pour 13 ans, 12 ans
Nicolas Marty, je ne juge pas ça, je dis simplement qu'il y a eu des violences et par ailleurs d'ailleurs des deux côtés pour éviter justement cette situation. Est-ce qu'il ne faudrait pas régler cette question du référendum, quitte à dire que voilà, c'est illégal, et repenser un nouveau cadre par lequel on avance sur le chemin de l'autonomie?
Sans doute, mais encore une fois, je pense pas que la pénalisation d'un mouvement démocratique soit la bonne solution. Je pense qu'il faut écouter, entendre ce qui se passe.
C'est pas la pénalisation d'un mouvement démocratique, c'est la pénalisation d'un référendum. On n'a pas le droit de faire un référendum d'autodétermination. Si on veut plus d'autodétermination, on met en place un cadre politique. Autre que le référendum.
Absolument. Pour moi, c'est une question politique et le problème vient de l'absence de réponse politique de l'Espagne vis-à-vis de cette demande. Mmh. Et je pense que si le problème politique avait été envisagé de manière, disons, moins crispée par le centre madrilène, par le centre de l'Espagne, vis-à-vis de ces communautés autonomes qui sont un peu en situation de crise, qui sont même beaucoup en situation de crise, la crise serait beaucoup moins forte. Mmh. Et l'indépendantisme serait au niveau auquel il était encore en 2006, c'est-à-dire autour de 10-15% d'une population qui voulait effectivement se séparer de l'Espagne, mais qui était très très loin de porter l'ensemble du mouvement catalaniste. À ce jour, pratiquement l'ensemble du mouvement catalaniste est devenu indépendantiste.
Allez, on va prendre un tout petit peu de champ, regardez du côté du Pays Basque, on est avec vous Nicolas Marty et vous Cyril Trépied dans cette série consacrée au régionalisme, à l'indépendantisme, qui est in, qui est out, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Voilà l'ambiance à la fête de San Marcial d'Irun, qui fait partie des événements incontournables du Pays Basque espagnol, un événement où on commémore la victoire des soldats d'Irun face aux envahisseurs, étant, je le rappelle, les forces du Royaume de Navarre soutenues par la France à l'époque. Depuis la dissolution de l'ETA en 2011, revenons à l'époque contemporaine, les Basques espagnols semblent mener une stratégie totalement différente que celle des Catalans. En effet, plus qu'un référendum qui statuerait sur leur indépendance, les partis basques mènent une stratégie d'influence pensée sur le long terme. Alors comment elle s'illustre? Avec quel résultat? Bonjour Barbara Loyer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Espagne. Vous êtes enseignante et chercheuse à l'Université Paris 8, pardon. Alors d'abord, on va faire un petit travail sur l'actualité, Barbara Loyer. On a parlé tout à l'heure des élections. Il y a eu là aussi, du côté basque, des députés qui ont été élus. On siège à la Chambre des députés en l'occurrence. Comment est-ce qu'ils vont peser, commençons par ça, Barbara Loyer, dans la future coalition menée par Sanchez et ses nouveaux alliés de Podemos?
Alors écoutez, j'aimerais d'abord juste vous faire un petit point sur le cœur de la question dont parlait tout à l'heure José Martínez, qui a un rapport direct avec votre question.
Alors allons-y.
C'est que je pense que le cœur de la question, c'est quand même que il y a des citoyens en Espagne qui s'opposent sur le fait de savoir qui est le sujet de la démocratie. Est-ce que le sujet de la démocratie, ce sont les peuples, ou est-ce que le sujet de la démocratie, ce sont les individus et les citoyens? Ce que demandent les nationalistes catalans et basques, parce qu'en fait leur stratégie n'est pas véritablement différente. Ils demandent, les nationalistes catalans et basques, d'avoir un rapport, une relation bilatérale, que leur gouvernement autonome ait des relations bilatérales avec l'Espagne et de ne plus être les représentants de l'État espagnol dans ces régions. Et donc dire que le sujet de la démocratie, c'est le peuple, c'est en fait confier, donner une identité géopolitique à un territoire qui englobe ses habitants. C'est en fait une forme de nationalisme obligatoire pour tous ceux qui habitent là. Et c'est un peu la raison pour laquelle ils ont pu faire un coup de force alors qu'ils avaient 48% des votes. Ils ont donc ensuite, au Parlement catalan, voté des lois en Catalogne qui allaient contre la Constitution espagnole. Ce qui, du fait qu'ils ne représentent pas la majorité des électeurs, même s'ils avaient en siège la majorité des sièges, parce qu'ils sont plus mieux représentés dans le monde rural, c'est un coup de force. Donc là, il s'agit de prendre le contrôle de toutes les institutions qui régissent la vie de la majorité des votants. Mmh. Et l'autre proposition, pas seulement de l'État, mais d'un très grand nombre de citoyens, et notamment des citoyens catalans, je vous rappelle quand même que Ciudadanos, qui là a pris une grande claque, est né en Catalogne, c'est que le sujet de la démocratie doit être l'individu et qu'on ne doit pas parler de l'Espagne, mais des Espagnols, et pas de la Catalogne, mais des Catalans. Donc je pense que ça, c'est quand même important.
Mmh. Oui, vous avez raison. Alors attendez, je reviens à une chose que vous avez dite, Barbara Loyer. Vous disiez, les Basques n'ont pas forcément une stratégie si différente que celle des Catalans. J'avais cru comprendre, par exemple, que la question de l'autodétermination, pardon, n'était pas forcément une option pour les Basques. Je me suis trompé?
En fait, c'est une option, c'est même la seule.
Le référendum, on est pour le référendum.
Non, pas le référendum.
D'accord.
Pas le référendum. Mais en fait, ça n'est pas parce que c'est parce que en fait le parti nationaliste basque et Bildu là essayent de faire changer le statut d'autonomie pour 2020. Et ils ont une majorité parlementaire actuellement de 35% des inscrits dans la communauté autonome basque, donc ça fait une majorité parlementaire. Hein. Et avec cette majorité parlementaire de 35% des inscrits, ils réclament la reconnaissance eux aussi d'une identité nationale différenciée. Et leur problème, c'est que l'identité nationale basque, pour l'instant, elle a une majorité des votants à l'intérieur de la communauté autonome basque, mais pas en Navarre et pas en France. Or, le projet national basque, il s'étend sur la Navarre et la France.
Il est transfrontalier.
Il est absolument transfrontalier. Et aujourd'hui, l'objectif principal, maintenant que l'ETA a disparu, ça lève, si vous voulez, un véritable verrou en Navarre et au Pays basque français pour commencer à véritablement créer ce qui est explicitement défini comme une confédération. Et donc l'idée, c'est bien que les autorités de la communauté autonome basque, elles aient des relations bilatérales avec le gouvernement espagnol. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les études préliminaires du Parti nationaliste basque, ils ne parlent même pas de Pays basque ou de communauté autonome, ils parlent de sujet politico-juridique titulaire. Et ce sujet politico-juridique titulaire, c'est exactement la même chose que ce que disait tout à l'heure José Martí. C'est le fait que quand on dit, par exemple, à quelqu'un dès l'extrême gauche catalane, bon, bah, d'accord, l'Espagne, elle est plurinationale, ok, mais donc, la Catalogne aussi, elle est plurinationale. Mmh. Ah non, me répond-on, la Catalogne, elle n'est pas plurinationale. Le territoire catalan, il a une identité. Et donc, on se retrouve dans ce que je vous disais au départ, le véritable débat, et qui ne sépare pas la droite et la gauche, parce qu'il y a des gens de droite et des gens de gauche qui pensent que l'objet de la démocratie, c'est le citoyen, et il y a des gens de droite et de gauche qui pensent que l'objet de la démocratie, c'est les peuples.
Mais alors du coup, Barbara Loyer, et là on va peut-être raccrocher à la première question initiale, c'est cette confédération transfrontalière qu'appellent de ses voeux les Basques. Est-ce que le gouvernement Sanchez, avec ses alliés de Podemos, pourrait accepter d'aller vers cette perspective?
Ah bien sûr, ils vont accepter d'y aller parce qu'en fait, si vous voulez, c'est parce que je lis des textes, du Pays Basque, mais c'est pas là-dessus qu'on va parler quand Pedro Sanchez va parler avec les nationalistes basques, il va parler de la manière lui de garder le pouvoir. Mmh. Et donc, il va négocier une forme de blindage en fait de droits supplémentaires. L'expression en Espagne, c'est blinder des droits. Donc blinder des droits, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait un pas et qu'on a donné quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière. Et ça, c'est un concept extrêmement important en Espagne. C'est le fait qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Donc si ensuite une autre majorité arrive, c'est mort en fait. Il faut que ça continue à avancer. Donc en fait, il y a une sorte de déséquilibre entre des pouvoirs régionaux qui sont des majorités parlementaires, et au Pays Basque, c'est une majorité parlementaire sur une petite partie du territoire qui est finalement, on va dire, convoité à très long terme, hein, parce qu'en France, ça mettra du temps quand même. Et ben, à partir de cette majorité parlementaire, l'important est de pouvoir faire un pas qui fait qu'ensuite, on ne peut plus retourner en arrière. Et l'idée de la réclamation des nationalistes catalans aujourd'hui qui disent on veut une conférence bilatérale, c'est qu'ensuite, on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Si on fait ça, on ne peut plus dire ensuite que le gouvernement autonome catalan, il est le représentant de l'État en Catalogne. Et
donc même Sanchez ne pourrait pas aller, si je résume la situation, Barbara Loyer, même Pedro Sanchez n'ira pas vers ça.
Il est un petit peu coincé. La raison pour laquelle il est coincé, c'est que les deux plus grosses fédérations et les deux plus importantes régions en termes de vote socialiste, c'est l'Andalousie, c'est la Catalogne. Alors, les Andalous et les Catalans, comme l'a dit l'autre jour Cyril Trépied, là, si les Andalous ont fait, on va dire, bouger l'organisation d'Espagne vers la constitution d'autonomie partout, c'est parce que les citoyens andalous, ils pensaient que c'était pas normal que les Catalans, ils aient beaucoup de pouvoir tout de suite, alors que ceux qui avaient fait le, on va dire, la richesse de la Catalogne, c'était les ouvriers catalans. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les moteurs, les deux grands moteurs de la dislocation de l'Espagne, c'est les deux régions les plus riches qui ne veulent plus payer dans un système solidaire et qui disent qu'il faut garder les sous pour soi parce qu'on est meilleur, parce qu'on travaille mieux, parce qu'on sera... voilà, et que finalement, les autres, c'est des boulets. C'est quand même ça le...
L'idée générale,
c'est
ouais.
C'est quand même ça le cap, si vous voulez. Donc du coup, les socialistes espagnols, Pedro Sánchez, il est très dépendant des socialistes catalans. Or, le Parti socialiste catalan, il est confédéré. C'est un choix qui a été fait juste après donc la mort de Franco, au moment de la réorganisation des partis en Espagne. Le Parti socialiste espagnol a accepté de se confédérer avec des socialistes très catalanistes, plutôt que de risquer d'être un parti croupion, on va dire, en Catalogne. Et du coup, ce parti, donc confédéré, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'imposer quoi que ce soit au Parti socialiste catalan. Donc ils sont un peu, c'est vraiment, si vous voulez, un équilibre extrêmement difficile à obtenir. Alors le Parti socialiste catalan, il est fédéraliste depuis très longtemps, et là il continue à être fédéraliste, et la fédération pourrait être une évolution dans le cadre d'un changement constitutionnel. Le problème, c'est que les nationalistes basques et catalans ne veulent pas d'une discussion dans le cadre de la Constitution, puisque le but serait de consolider l'Espagne. Or, l'objectif des séparatistes est de détruire la monarchie et l'Espagne. Donc, c'est un peu contradictoire. En fait, jamais les nationalistes catalans ni les nationalistes basques n'ont demandé de réforme constitutionnelle, ce qui suppose qu'on consolide le système. On pourrait le consolider en se disant qu'il faut trouver en effet des solutions dans le cadre de l'Union européenne. Mais pour eux, l'important pour eux, c'est le côté bilatéral. C'est-à-dire que vous allez avoir tout un discours hyper démocratique du Parti nationaliste basque, mais le point le plus important, c'est le côté bilatéral. Ils seront capables de renoncer à plein de trucs en disant qu'ils les auront plus tard, dès l'instant où ça, c'est reconnu que la Constitution et l'Assemblée nationale espagnole n'est pas l'endroit où on décide. C'est aussi ce qu'ils voulaient au moment des négociations, où ils voulaient qu'il y ait des négociations à l'intérieur du Pays Basque sur l'ETA. Et à l'époque, l'Assemblée nationale espagnole disait, ben non, le cadre où on discute, c'est l'Assemblée nationale espagnole. Donc c'est tout.
Et alors après, on est là au cœur de la fracture et de la différence de point de vue de cette question-là. Merci beaucoup en tout cas, Barbara Loyer. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Et je rappelle que vous êtes auteur notamment de cet ouvrage, L'Espagne en crise, une géopolitique au XXIe siècle. C'était paru chez Armand Collin. Merci également à Nicolas Marty qui est avec nous en duplex depuis Perpignan et je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Un grand merci également à vous Cyril Trépied.
Merci.
Je rappellerai pour les auditeurs l'indépendance catalane en question à retrouver chez Atland. On retrouvera ça évidemment sur la page de Culture Monde. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Mikhail Gorbatchev livre son ultime témoignage sur la période historique qu'il a marquée d'une empreinte inoubliable.
Oui, et il en profite pour donner sa propre analyse de celle que nous vivons. Son ouvrage, Le futur du monde global, est présenté en effet comme son testament. Âgé aujourd'hui de 88 ans, le dernier secrétaire général du Parti communiste du RSS n'a pas pardonné à Boris Yeltsin d'avoir dissous l'Union soviétique et proclamé l'indépendance de la Russie. Il estime que c'est le putsch des conservateurs du parti en août 1991 qui l'a empêché, lui, Mikhail Gorbatchev, de parvenir à l'accord politique qu'il était en train de négocier avec les responsables des autres républiques soviétiques. « En tant que président, dit-il, je me suis battu jusqu'au bout pour l'unité du pays, l'URSS, je l'ai fait, je le tiens à le souligner, par des moyens politiques. » Eh bien, c'est passé un peu vite tout de même sur le déploiement de troupes soviétiques en Lituanie à la veille du référendum sur l'indépendance du pays, voté, rappelons-le, à 90% en 1991. Mais c'est vrai, l'histoire saura gré à Gorbatchev d'avoir permis au peuple qui voulait depuis longtemps secouer le joug du communisme d'avoir accédé pacifiquement à la démocratie dont il rêvait. Mais présenter la fin de la guerre froide, ainsi qu'il le fait, comme le fruit d'une série de négociations entre lui-même et Reagan, et décréter qu'il n'y eut ni vainqueur ni vaincu, eh ben c'est une curieuse lecture de l'histoire. Après tout, ce ne sont pas les Allemands de l'Ouest qui se sont soulevés contre leur régime et ont exigé leur rattachement à l'Allemagne de l'Est, mais le contraire. Aujourd'hui, Gorby se définit comme social-démocrate, mais il soutient Poutine, dont l'idéal de révolution conservatrice ne correspond guère à cet idéal. Le président de la Fédération de Russie a hérité en 99, écrit-il, d'un chaos dont Eltsine portait l'entière responsabilité, et il crédite Poutine d'avoir rétabli l'autorité de l'État sur l'immense Russie. Il le félicite d'avoir rendu sa puissance et son influence internationale à son pays. Gorbatchev déplore l'extension de l'OTAN et même de l'Union européenne, trop rapide, juge-t-il, aux anciennes démocraties populaires. Et il approuve ce qui s'est passé en Russie depuis l'an 2000, de l'invasion de la Tchétchénie à l'annexion de la Crimée ukrainienne. Il ne semble pas remarquer non plus les ingérences russes par conflits gelés en Géorgie ou en Moldavie. D'une même plume, il se prononce pour la non-ingérence dans les affaires intérieures, le droit des peuples à l'autodétermination, et il accuse l'Union européenne d'avoir accepté de négocier avec l'Ukraine sans inviter la Russie. Décidément, on ne se débarrasse pas si aisément de la doctrine brejnevienne de la souveraineté limitée des satellites.
Alors Brice, là où Gorbatchev se montre le plus convaincant, c'est lorsqu'il déplore la nouvelle course aux armements.
En effet, il n'est pas le seul à s'inquiéter du retrait des Russes et des Américains du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, le traité INF, qu'il avait lui-même signé avec Ronald Reagan en 1987 afin de mettre fin au dangereux face-à-face en Europe des SS-20 d'un côté, des Pershing 2 et des cruise missiles de l'autre. Dans un récent article, Sigmar Gabriel, l'ancien ministre SPD des Affaires étrangères allemand, explique cette renonciation. Je le cite. « Si les États-Unis et la Russie veulent se libérer de toute limitation sur les armements nucléaires, ce n'est pas pour s'affronter mutuellement, mais parce qu'ils considèrent à présent la Chine comme leur véritable adversaire nucléaire. Or, cette dernière, il faut le savoir, n'a signé aucun traité de limitation des armements stratégiques. » Mais beaucoup d'experts s'inquiètent de l'actuelle relance évidente de la course aux armements nucléaires. Ainsi, Bennett Ramberg, un analyste américain au département d'État, estime peu probable que les États-Unis maintiennent leur adhésion au traité New START qui arrivait à échéance en 2021 et qui limitait à 3000, ce qui est déjà pas mal, le nombre d'armes dites stratégiques que les USA et la Russie s'autorisent à braquer l'un vers l'autre. Gorbatchev accuse franchement, lui, les États-Unis de vouloir abaisser le seuil à partir duquel ils pourraient éventuellement employer ce type d'armes. Ramberg, lui, écrit que les Russes ont déjà déployé un arsenal de missiles de portée intermédiaire visant les seules capitales européennes. Il y a bel et bien une nouvelle course aux armes nucléaires dans le monde et un risque de prolifération, notamment au Moyen-Orient, si jamais l'Iran finissait par sauter le pas. Pour Ramberg, la cause en est double. D'une part, les anciennes alliances militaires par lesquelles l'un des super-grands s'engageait à défendre ses alliés ne sont plus crédibles. L'insécurité pousse à s'armer. De l'autre, il n'est plus envisageable d'aller détruire les installations nucléaires qui vous inquiètent, comme par exemple Israël l'a fait autrefois en Irak et en Syrie. Donald Trump, par exemple, semble avoir ainsi renoncé à frapper les installations iraniennes. Trop risqué. Renforcer son propre arsenal serait alors une troisième solution destinée à garantir sa supériorité et donc à tenir la dragée haute aux challengers éventuels, type Corée du Nord. Et ben, c'est ce que font les Américains et les Russes.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.